Ellers has Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up. It's good at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. As it is possible, Lenny Wilkins leads to four.
Et bienvenue sur Money Time. Money Time, c'est votre émission basket sur Graphite dans laquelle on décortique l'actu de la balle orange, on décrypte la culture basket sous toutes ses formes et dans laquelle on explore des dimensions parallèles étonnantes. Et dans ces dimensions parallèles étonnantes, Trump n'est pas président de la première puissance mondiale. Alors tout ça sans langue de bois et dans la bonne humeur. Et malgré la montée des extrémismes, partout dans le monde. Ça va être insupportable, je vous le dis. Elle est longue et c'était... Alors Money Time aussi sa page Facebook, qu'on vous invite à découvrir et à liker, comme disent les vieux. Mais comme c'est insupportable, on va quitter la Terre, parce que ça, ici-bas, c'est vraiment trop horrible. Alors on va prendre un peu de hauteur et pour cette émission, on va surfer sur la reprise de la saison NBA 2024-25 qui vient de démarrer et les amateurs de basket US comme nous, on retrouve un sens à leur vie, même si effectivement dans la galaxie du basket, on aura tout au long de l'année l'opportunité et le désir de vous faire explorer d'autres univers que la Grande Ligue et tout ce qui gravite de façon générale autour de la grosse balle orange. Et aujourd'hui, donc, on vous emmène à base de la navette Money Time, saison 2, pour un road trip galactique palpitant. Alors parmi les planètes à explorer, on ira sur Vénus et son peuple d'Amazon avec le basket féminin, hein, qu'on a déjà abordé lors de notre première émission Girl Power. On fera aussi un petit détour vers la traversée du champ d'astéroïdes, des actus basket qui ont retenu notre attention. On posera évidemment nos pieds sur Mars à la rencontre des extraterrestres du basket US, avec une spéciale, donc, comme je vous le disais, enjeu collectif et individuel de la saison. On vous balancera nos coups de cœur, mais aussi nos doutes, nos espoirs collectifs et individuels, sur fond de guerre des étoiles. On aura aussi l'occasion de dépasser la vitesse de la lumière pour remonter le temps et se pencher sur un joueur d'exception, aussi glorieux que Neil Armstrong, puisque vous découvrirez la story d'un des plus gros palmarès de l'histoire de la NBA. Incarnation même de la clutchitude, mais je ne vous en dis pas plus. Et pour terminer, notre buzzer beater du jour, Minnesota, New York, où en est-on du gros échange qui a chamboulé la reprise de la saison? Allez, c'est parti. Pour explorer tout ça, ces contrées lointaines, notre équipe d'astronautes pour cette émission spatiale, donc la voici. Alors sur un terrain, il avance à petits pas pour l'homme et à encore plus petits pas pour l'humanité. Mais quand il marche sur le sol lunaire, il laisse de sacrés cratères. Ah, j'ai le droit. J'ai le droit à mon doigt. Bienvenue Mehdi.
Salut les potos.
Dans l'espace, il y a des aliens. On a le nôtre, le seul être vivant à croire que Jordan Poole est un joueur de basket et que Washington a un avenir. Vous avez forcément reconnu Manu.
Bonsoir à tous.
Salut Manu. Alors son père est une intelligence artificielle nommée Carl. Sa mère c'est la Matrice. Voici Baptiste, notre invité du jour, et professeur tournesol de la fusée. Et il est accompagné de D2R2, ou R2D2, je sais jamais. C'est Mathieu. Bienvenue les gars.
Bonsoir à tous.
Salut Mathieu. Et alors on a des guests, hein. Vous savez qu'on a un public qui est toujours de plus en plus nombreux dans le studio. On a notre... Alors, je ne me trompe pas, c'est Clarisse qui est venue nous faire un petit coucou et qui est déjà une habituée. Et comme Monsieur Spock, quand il l'ouvre, c'est pour dire des trucs un peu chelous que seuls lui et les habitants de Vulcain peuvent comprendre. Salut Buffa.
Ouais, salut.
Je t'ai mis ton micro, alors je sais pas si...
Vous m'avez en retour?
Ah, ouais,
c'est en ouais. Direct alors, là je suis avec vous.
Eh ben c'est nickel, voilà.
Okay. Éteint maintenant, c'est bon.
Alors le Space Cowboy qui dirige cette équipe de bras cassés de l'espace d'une main de fer, véritable Capitaine Kirk du pauvre, c'est Wham. Voilà, donc c'est moi qui vous accueille sur ce vol interstellaire.
Merci.
Allez. Bah de rien, c'est un plaisir. Alors c'est un grand plaisir de vous retrouver tous et on va lancer tout de suite notre première rubrique. Alors il y a un mois de cela, on vous proposait une interview réalisée par Buffa, d'accord, d'ailleurs avec brio, d'Elena Siak qui a été glanée à l'occasion de l'Open de l'Oise qui se tenait les 13 et 14 septembre dernier à Marny-les-Compiègnes. Aujourd'hui on vous propose un autre épisode avec l'interview de la très expérimentée Amel Boudera, capitaine des Flammes Carolo Basket de Charleville-Mézières, que j'ai pu rencontrer en compagnie de Cyril et Mathéo et avec laquelle on a pu échanger sur son statut de taulière internationale. Quand même double lauréate, excusez du peu, du trophée de meilleure joueuse de feu LFB, hein, du haut de son mètre 62-63. Donc carrière, féminité, challenge et ambition d'une fin de carrière qui est quand même époustouflante. On vous présente tout de suite l'interview de la super sympa Amel Boudera.
Que j'apprécie, c'est une émission de basket qui s'appelle Money Time.
Un événement de qualité.
Dans Money Time.
Money Time.
Salut, c'est Amel Boudera, meneuse et capitaine des Flammes Carolo Basket. Si tu kiffes le basket, tu kiffes Money Time sur Radio Graphite.
Yeah!
J'aime pas dire ça, mais est-ce qu'on peut considérer que vous gérez déjà une fin de carrière? Ou est-ce que vous abordez les choses comme si vous ayez tout à prouver encore, et c'est quoi l'état d'esprit dans lequel vous abordez cette saison, cette nouvelle saison?
Bon, je pense qu'il ne faut pas avoir l'arrogance de se dire qu'on n'a plus rien à prouver. Au contraire, avoir ce côté de vouloir continuer à prouver, c'est continuer à travailler pour soi, mais aussi pour son équipe. Là où c'est le plus important, c'est surtout que dans ma tête, je suis prête à me dire que c'est la dernière. Je pense que quelquefois, il faut être préparé pour bien le vivre. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer pour le moment. C'est que comme les choses sont actées, on continue à prendre du plaisir. On se dit que chaque match est le dernier. Que ça, c'était le dernier match de préparation ici, peut-être. Enfin voilà, donc non, on fait ce genre de saison avec beaucoup d'humilité.
Venir dans une petite salle comme ça, en province... C'est toujours une expérience sympa ou finalement vous êtes tellement habitué avec la carrière que vous avez vécue qu'il y a moins d'émotions forcément ou non?
On s'y habitue jamais, bien au contraire, on est content de... Moi j'adore ce genre de tournoi, ça me rappelle un peu mon enfance en Alsace où c'était très... En Alsace on est très tournoi, très côté familial, très emmener les enfants voir les plus grands. Et j'ai été cet enfant qui allait voir les plus grandes et qui était autour du terrain, manger ma petite crêpe, mon sandwich merguez. Donc bien au contraire, et puis de voir autant de monde investi pour du basket féminin, d'avoir une aussi belle organisation, parce qu'on parle des joueuses, on parle du public, mais on oublie aussi les bénévoles qui sont tout autour, qui vous accueillent, qui vous mettent bien, qui vous chouchoutent, qui essaient de faire vraiment parler de nous. Je trouve ça très très important. Et non, je trouve que ce genre de tournoi, il en faudrait même un peu plus quelquefois. Non, c'est génial de participer à ce genre d'événement.
Est-ce que vous, du début de votre carrière à aujourd'hui, vous avez constaté l'engouement croissant autour du basket de façon générale et spécifiquement du basket féminin?
Oui, moi ça fait 20 ans que je suis professionnelle, donc j'ai pu voir aussi l'évolution entre quand j'étais à Strasbourg où on était peut-être 300 spectateurs. Puis moi j'ai aussi la chance de faire ma 18e saison à Charleville, donc j'ai vu aussi le basket féminin évoluer à Charleville où on était peut-être 1000 personnes dans une salle. On est monté crescendo, on a fait venir du public, on a fait venir aussi des partenaires qui ont commencé à s'intéresser au basket féminin. On a commencé aussi à se battre, à changer les mentalités des politiques, à investir vers nous et pas tout le temps sur les garçons. Et puis forcément, les résultats de l'équipe de France ces dernières années donnent un petit coup de pouce aussi. On nous met un peu plus en lumière. avec un syndicat, un peu plus orienté vers les filles aussi. D'ailleurs, on a signé une convention qui sera, dont on en parlera la semaine prochaine à l'opening, ce sera la conférence de presse, donc ce sera l'ouverture. C'est-à-dire qu'on nous offre un peu plus de droits, on nous soutient un peu plus sur certaines choses. Sur une évolution simple, c'est que nous les femmes, on n'est pas que des basketteuses, on est aussi des humaines. Là, par exemple, la jeune femme que je viens de rencontrer, donc c'est Evine Akator, une ancienne coéquipière, qui a été maman.
Vas-y.
Voilà, en France, on a quand même la chance d'avoir ce côté de la sécurité sociale, d'être protégée, d'être accompagnée. Malheureusement, tous les clubs ne sont pas orientés sur ça, sur cet accompagnement, et donc on essaye encore de travailler dans ces mentalités. Mais je pense qu'en 20 ans de carrière, j'ai quand même pu voir une évolution, et puis j'ai hâte de voir ce que le futur réserve.
Et c'est dur d'être une joueuse de pro. C'est des sacrifices où on se rend pas compte parce que on est tous basketteurs amateurs à nos niveaux modestes. On investit beaucoup de temps dans le basket, mais vous, c'est votre vie, c'est votre gagne-pain. Et en même temps, ça doit rester un plaisir, j'imagine.
C'est 50-50, je dirais, parce que y a le côté, c'est notre passion. Je pense que il y a certaines personnes, parce que moi j'ai un autre métier à côté depuis 2 ans, mais il y a des personnes qui se lèvent à 6h pour aller travailler à l'usine, à la chaîne, qui ont 1 heure leur midi de pause pour manger un petit sandwich rapidement, qui rentrent à 17h, qui doivent s'occuper de leurs enfants. Voilà. Nous, on est quand même des privilégiés. Maintenant, ça demande aussi des sacrifices, c'est-à-dire s'éloigner de sa famille. Pour nous, les femmes, c'est aussi réfléchir à quand avoir un enfant, par rapport à ce genre de choses. Aussi être face à la critique. À un moment donné, justement, la personne qui a un job, j'ai envie de dire, normal, qui n'est pas médiatisé, il fait son petit truc, à la rigueur, il a son petit directeur qui va venir le râler. Nous, c'est la moindre erreur, c'est peut-être être tué à la salle, critiqué dans les journaux. Maintenant, avec la puissance des réseaux sociaux, c'est se moquer, critiquer. Et ça va c'est de plus en plus agressif aussi, donc c'est quelque chose aussi qui a évolué pas dans le bon sens malheureusement. Donc voilà, il y a ce côté 50-50 d'être heureuse de vivre de sa passion, mais il y a quand même un certain stress et une certaine pression.
On parle beaucoup de WNBA aujourd'hui, ouais. Vous suivez vous un petit peu?
Oui, moi j'aime bien la WNBA, après... Alors forcément, maintenant, je peux comprendre, les Américains essayent d'évoluer de leur côté, parce qu'à la base c'était vraiment 2 mois, donc c'était parfait, les filles pouvaient vraiment faire double saison. Maintenant elles essayent, ce qui est normal dans leur propre pays, d'agrandir la ligue, donc c'est un peu plus embêtant pour nous en Europe pour récupérer des Américaines. Maintenant c'est pas grave, je pense qu'en Europe on a ce qu'il faut, mais c'est hyper intéressant d'avoir cette ligue-là, de voir ces joueuses, ces structures, parce qu'après les Américains c'est le show à l'américaine. Quand vous voyez les finales l'an dernier, Las Vegas-New York, vous avez plus de 20 000 personnes qui viennent voir un match de filles, c'est juste incroyable.
Et justement, ces figures avec Caitlin Clark, Angel Reese, Aja Wilson, tout ça, c'est ces figures qui deviennent quasiment plus connues, en tout cas aussi connues que des stars NBA. C'est vraiment pour vous aussi révélateur d'un changement de mentalité?
C'est révélateur, après c'est parce que les Américains ont aussi une autre mentalité. Les Américains ont ce côté d'être fiers, de montrer, de mettre les gens en avant. Et dès le plus jeune âge, dès l'université, il y a Paige Bucker qui est pas encore en WNBA, c'est déjà une superstar de UConn. Kathleen Kirk, on parle d'elle depuis qu'elle est en université. Et il y a des filles avant en WNBA qui se sont battues pour ça. Des Sue Bird, des Diana Taurasi qui se sont battues pour que le basket soit mis en lumière. Et elles ont eu le soutien aussi du basket masculin, avec des joueurs comme, pas son âme, Kobe Bryant, qui a créé une académie pour les filles, qui était un vrai soutien pour les filles. Tony Parker, ce qu'il peut faire en France en investissant en l'ASVEL. Il faut ce poids, il faut ce soutien-là. Et puis je pense que c'est un peu l'image qu'il faudrait suivre, là, cet engouement qu'il peut y avoir pour le sport féminin en général aux États-Unis. Je pense que c'est la voie à prendre.
On vous remercie énormément.
Non, c'est moi qui vous remercie, c'est gentil.
Voilà, c'était l'interview d'Amel Boudera, une joueuse mais vraiment super sympa, hyper dispo. Alors comme toutes les joueuses qui étaient présentes à l'Open de l'Oise, c'était vraiment un super moment et on vous proposera d'autres interviews qui ont été réalisées, notamment les coachs qui étaient présents aussi et d'autres joueuses au fur et à mesure. Mais c'est sympa de s'immerger un petit peu dans une compète, même si c'est une compète amicale. On a bien pu découvrir un petit peu leur quotidien et je trouve que les échanges qu'on a eus avec elles étaient vraiment intéressants. C'est l'heure de la rubrique des actus. C'est parti. Alors, dans cette rubrique, on épluche rapidement l'actu de la balle orange. Et on commence en revenant rapidement sur le dénouement des finales en WNBA, puisque lors de notre dernière émission, en fait le lendemain, on avait le dernier match de la série qui s'était terminé quand même sur un 3-2, donc au meilleur des 5 matchs.
Un beau match volé, hein.
Allez, alors justement, on y va direct sur les 10 dernières secondes.
Bah justement, tiens, tu vas pouvoir rebondir dessus. Donc le New York Liberty de Brianna Stewart, Sabrina Ionescu et Jankel Jones, qui était surprenante MVP, on n'attendait pas forcément, mais dans un suspense. Bon,
bah,
elle a fait
la loi à l'intérieur, donc c'est pas volé, c'est pas.
C'est pas volé, on est d'accord.
Souci,
hein. Mais c'était pas le nom qui était le plus clinquant au départ,
non.
Et donc on n'attendait pas forcément. Alors gros suspense et flou arbitral visiblement.
Oh bah,
plus
donc
que notable.
Minnesota est 2 points devant à 10 secondes de la fin, remise en jeu en phase offensive de New York. Donc bien sûr le ballon va à Stewart. Et là, elle nous enchaîne un 4 pas, mais phénoménal, où les 3 arbitres laissent passer. La faute, il y a un contact, mais hyper léger. Elle prend 2 lancers, ils vont en prolongation.
Et là,
et Minnesota, ils explosent en prolongation parce que leur meilleure joueuse, elle prend la 6e faute très très vite. Bon, après, New York fait un beau champion. C'est la première fois qu'ils ont le trophée. C'est un beau
ça
champion.
Ça arrange bien la WNBA aussi.
C'est ça.
C'est pas un gros marché, Minnesota. Donc, c'est comme au basket. Enfin, chez les mecs en NBA. En tout cas, c'était une belle finale qui était plus accrochée que ce qu'on pensait. Hein, parce qu'au départ, on pensait vraiment que le New York Liberty allait rouler sur les Minnesota Lynx.
Ouais, comme quoi la saison régulière, c'est important. Parce que le 5e match d'une finale WNBA, quand tu l'as à la maison, c'est quand même plus sympa.
Et ouais, exactement. D'ailleurs, pour clore notre rubrique, puisqu'on a beaucoup parlé des filles pour commencer cette émission, mais pour clore notre rubrique féminine, on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de la première émission Girl Power, on avait évoqué des tensions en WNBA, notamment sur les questions des salaires. Avec Gabrielle Williams, notamment, qui s'était exprimée en disant qu'elle gagnait pas grand-chose, en fait, au final, malgré ce qu'on leur mettait, ce qu'on leur promettait. Et justement, il y a une menace de lockout, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui pèse. Alors, est-ce qu'on peut, quelqu'un peut expliquer ce que c'est que le lockout, ce qu'on connaît en NBA, mais...
C'est une grève, tout simplement. C'est une grève de match pour renégocier les salaires, les droits à l'image.
Voilà.
Et c'est arrivé en la saison 99 en NBA chez les garçons, l'année où les Spurs gagnent leur premier titre.
Ouais, exactement. Donc saison à 56 matchs dans la foulée, si je dis pas de bêtises. Hein.
C'est ça.
Donc raccourci. En tout cas, c'est une menace qui pèse réellement. Et quand on voit les bénéfices qui ont été faits par la WNBA cette année et les contraintes qu'elle impose aux joueuses, notamment des championnats étrangers, on peut se dire qu'il va falloir quand même un moment que les propriétaires passent à la caisse, tout simplement.
Oui, c'est normal. C'est normal.
Ok, on continue avec l'actu du basket. C'est également l'Euroleague chez les gars. Et 3 équipes françaises, hein, dont on va vite fait parler, aux fortunes un peu diverses. Donc entre la confirmation pour Monaco, qui est devenue une place forte en Europe, hein, on peut le dire clairement, hein, je pense, malgré une défaite in extremis d'un petit point vendredi dernier contre Kaunas. On a ensuite une équipe qui découvre de façon un peu surprenante et émerveillée la compétition, c'est le Paris Basket, qui se retrouve 6e. Dont vous allez nous parler un petit peu, les gars, puisque vous avez des choses à dire dessus. Et qui s'est défait d'ailleurs de Vitoria cette semaine sur la plus petite démarche aussi, hein, 2 points, si je ne dis pas de bêtises.
4.
4 points, ouais. Bon, bah c'est petit quand même. Ok. C'est facile, il y était. Alors, voilà quoi. Et puis l'ASVEL qui est un peu plus en galère, hein, qui se traîne en fin de classement. Messieurs, vous avez quelque chose à nous dire justement sur l'Euroleague, qui est quand même la compétition qu'on aimerait bien développer aussi un petit peu dans Money Time sur les prochaines émissions, mais qui est quand même la meilleure compétition en Europe et peut-être, hormis la NBA, peut-être la plus relevée.
Bah, Paris et Monaco, c'est les 2 places fortes du basket français. Paris a quand même pris le lead sur l'ASVEL. Mais c'est vraiment 2 belles équipes, ça joue très très bien. Et Paris a mérité sa victoire. Ils ont mené de 16 points le match. Bon, après, il y a eu un trou d'air. Hein. Il y a eu des shoots qui ne rentraient plus. Bon, bah, ça arrive, hein. Ça arrive même au meilleur, du coup, ça nous rassure quand même.
Et au mauvais aussi. Hein.
Ouais, c'est ça. Mais ils l'ont gagné, ils l'ont mérité, ils l'ont gagné. C'était chouette. Et Monaco continue sur sa lancée des autres saisons. Hein. Comme tu dis, ils sont déjà allés sur un Final Four.
Bon, puis il ne faut pas oublier que Paris découvre la compétition cette année.
Donc, c'est ça qui est fou.
Et Paris a été gagné à Monaco.
Oui.
Moi, je pense que les cartes en France sont redistribuées aussi parce que Paris ont un recrutement très intelligent. Ils ont mis en place des hommes forts derrière une cellule de recrutement qui
fait
qui pèse, ouais, qui fait le taf. Ils ont construit vraiment une super salle.
La salle, la salle, vous avez eu l'occasion d'y aller justement.
Ouais, en fait, ils ont vraiment pris le modèle américain. Où que vous soyez placé, vous pouvez prendre une place même à. Ça commence à 8-10 euros pour aller voir un match d'Euroleague. Voilà, faut pas s'attendre à une grosse ambiance non plus, sauf.
Ouais, il y a un cop quand même.
Il y a un cop qui est marrant
sur 4 ans.
Moi, je sais que je suis allé voir le premier match, le tout premier match d'Euroleague où Belgrade se sont déplacés en nombre. Belgrade avait pris le dessus sur le cop parisien.
Ah, ça, Belgrade, ils ont dû savoir faire.
C'est étonnant.
Ils ont balancé des boulons et des fumigènes.
Non, même pas. Ils sont restés courtois, vraiment. Quelques gestes un peu obscènes, mais bon. Mais sinon, non, franchement, je pense que Paris Basket. C'est l'équipe à suivre. Franchement, je pense que je miserais bien une pièce dessus. Alors,
derrière Nadir Ifi, les coups de chaud qu'il prend, ce type, c'est quand même assez impressionnant.
TJ Short, Nadir Ifi, c'est quand même une sacrée paire de joueurs. Je vous dis, même l'intérieur qu'ils sont allés chercher, Ace, là, qui fait le taf.
Il est bon.
Mais je vous invite à y aller. Franchement, ça vaut vraiment le détour pour aller voir du basket. Ouais. Pas trop cher, pas trop loin.
Ouais.
Exactement. Très belle salle.
Ok, on enchaîne avec, au niveau culture et médias, toujours une autre actu, on peut évoquer, mais rapidement, la diffusion depuis le mois dernier de la série Starting Five sur Netflix, qui vous plonge dans le quotidien des stars NBA. Alors, il y en a 5 qui ont été choisis. LeBron, Butler, Tatum, Sabonis et Anthony Edwards. Avec un intérêt qui est quand même moins évident que celui qu'on a eu pour The Last Dance, hein, dont je vous invite à aller voir, à écouter l'émission précédente. Est-ce que vous avez regardé, les gars, un petit peu Manu ?
Pas encore. C'est dans ma petite liste, mais j'ai pas encore regardé, j'ai pas encore eu le temps.
Alors moi, j'ai regardé les deux premiers épisodes et je vais pas vous cacher que je trouve ça un petit peu creux. C'est-à-dire que Anthony Edwards, il ouvre beaucoup sa gueule sur le terrain, à côté du terrain. Et quand tu vois dans son quotidien, à part jouer à la console, il fait pas grand-chose. Donc c'est pas toujours très palpitant. Il y a des mecs plus intéressants que d'autres, Sabonis notamment, parce que Sabonis, il revient sur l'héritage de son père, notamment. Ah
ouais, incroyable.
Voilà, comme un très grand joueur qui a martyrisé quand même les Américains. Un des seuls à avoir martyrisé la raquette américaine au JO, notamment.
Moi, je trouve son père, il a quand même démocratisé que les pivots savaient faire des passes.
Ah oui, carrément, c'est le premier pivot passeur d'ailleurs, peut-être. Ah,
lui,
des mains en or. Hein.
Ouais.
D'ailleurs, le fils est pas manchot dans le domaine. Donc voilà, Tatum, c'est plus intéressant quand on parle de joueurs comme Tatum, parce que Tatum, ça a été filmé en début de saison dernière, donc il y avait beaucoup d'attentes, il était très critiqué. Donc j'ai pas regardé la suite, je la regarderai, je pense, mais voilà, c'est intéressant parce que vous découvrez le quotidien. Même Butler, c'est sympa de le voir aussi. On apprend qu'il a perdu son père en cours de saison régulière l'année dernière. Et que ça,
qui explique beaucoup de choses du
ça
coup
ça
sur sa
saison. Ça explique aussi quelques choses. Bon, pas la blessure à la fin. Mais voilà, quoi. Donc si vous, le cœur vous en dit, c'est sur Netflix. L'actu fraîche également aussi, c'est le maillot de Michael Jordan qui a été vendu plus de 4 millions d'euros. C'est une affaire à saisir. Hein. C'était une affaire à saisir en tout cas, puisqu'un maillot de sa majesté porté lors de sa dernière saison avec les Bulls, hein, je parle pas avec les Wizards, avait dépassé les 9 millions d'euros. Et messieurs, tiens, vous savez quel est le record du monde pour la vente d'un maillot
10.
Tout sport confondu, hein.
20 millions.
20, Baptiste ?
Je dirais même plus.
Très près, je dirais plus.
Ouais.
Buffa ?
Je pense que les Américains.
J'aurais dit 22, comme Clarisse. On dit 22.
T'aurais dit 22, et bah t'as gagné.
Ah, voilà.
Bravo, 22 millions d'euros pour un maillot de Babe Ruth des Yankees de New York au baseball. Voilà.
Du coup, j'ai gagné le maillot ou pas ?
Alors, pour les maillots, on verra. On a un auditeur qui nous écoute, là, qui est en train d'écouter, qui va devoir nous. Qui nous a promis des beaux maillots. Salut Thierry. D'ailleurs, je vous annonce au passage que je mets aux enchères le slip kangourou que je porte pour cette émission. On commence à 1000 balles.
Allez.
C'est parti. J'attends vos propositions. Bon, je vous laisse réfléchir.
On va réfléchir,
ouais. Réfléchissez bien. Et on termine ces actus par Jojo, le grand Jojo, qui est quand même un de nos premiers fournisseurs de vannes sur cette émission. Enfin, de vannes. Non, c'est un grand joueur. Mais il a été suspendu 3 matchs après une altercation un peu musclée avec un journaliste qui lui aurait parlé de son père, de son frère.
Le journaliste, il n'a pas à faire ça parce qu'il provoque, en fait, que tu lui reproches des choses sur son basket et son professionnalisme, mais tu ne parles pas de la vie perso, en fait. Et
c'était vraiment, je ne sais pas, toi, tu as entendu le contenu.
Ouais, il y a le contenu qui a leaké un petit peu. Ouais. Et puis après, tu as plein d'articles qui sont sortis sur ça. Mais c'est vrai que.
Bon, il l'a menacé ouvertement. Hein.
En se retenant un petit peu quand même, hein. Ouais. Sur ces mots qui ont été rapportés, tu vois, c'est bon. Ouais. Mais bon, c'est de la menace. Et puis aux États-Unis, après, sur ça, sur les menaces, ils blaguent pas, quoi.
Moi, je vous propose une émission sur les méchants prochainement, et Embiid va avoir sa place, à mon avis, dans cette émission, parce que dans la NBA actuelle, c'est un peu le méchant là, Embiid. Hein. C'est un peu le Dark Vador de la NBA là, ces derniers temps. En tout cas, il a même plus besoin de se blesser pour manquer des matchs.
Voilà. C'est formidable.
C'est surprenant.
Ce qui est bien, c'est qu'il va pas être, il va pas non plus être embêté pour avoir les choper les trophées, vu qu'il faut 65 matchs, il les aura pas.
Mais tu vois, le problème de ça sur sa blessure, c'est qu'en fait, c'est son coach qui a annoncé déjà qu'il ferait pas certains matchs, etc. Ils ont parlé trop vite en fait sur ça, parce que qu'il soit blessé.
C'est le coach qui parle. Le premier qui parle, c'est lui en disant qu'il ne ferait plus
les back-to-back. Ouais.
Et ça, la Ligue, je suis désolé, mais la Ligue, elle ne l'encaisse pas.
Mais t'as son coach qui a un peu, tu vois,
c'est un joueur star, il n'a pas le droit de dire ça. Tu te rends compte toutes les programmations qui sont faites en avant ?
Eux, parce qu'ils voient le côté business et les fans et tout ça, mais après, au bout d'un moment, s'ils se pètent tous les 10 matchs, c'est pareil. Les gens, ils vont être frustrés aussi, tu vois, quand la saison sera vraiment lancée et où les matchs auront de l'intérêt.
Premier week-end sur le match international, donc ça veut dire qu'il est sur les bonnes heures chez nous, ouais. C'était Indiana Sixers. Ah, bah, on avait l'eau à la bouche entre Embiid, Paul George qui est arrivé, Tyrese Maxey.
Ouais, et puis au final.
Ah, puis au final, bon, Philadelphie a gagné quand même en prolongation, mais.
Tout cas, on en reparlera sur les déceptions, sur la saison. Mais là, Philadelphie a pris un très mauvais départ. C'est pas les seuls.
Est-ce que tu vas dire que je l'avais dit déjà ça dans l'émission d'avant
moment, que tu vas le dire toi. Oh, tu vas prendre le micro pour le
non,
dire.
Non, je vais pas dire que j'avais raison. C'est redondant et tout.
Voilà. C'est un peu agaçant. Allez, on fait une petite pause musicale tout de suite avec un titre qui est issu justement de Starting Five. Buffa, le rappeur, il
ne dit pas que c'est Drake. Hein.
Non, c'est pas Drake, j'ai plus le droit de mettre Drake.
It made them sour, my superpowers. But true, you love it, you ask me how. That's for me to know you to find out, girl. Yeah. Me to know you to find out, girl. Yeah. Me to know you to find out. How I hit the stage, make the shit bounce. Watch out before the floor gives out. Booth coming down, no doubt. She said, pull me up, it look like it's a drought. The way she wanna keep on drinking, she gon' drown. She like to go crazy and she down to get down. She wanna get in places where she know they ain't allowed. It's only us around, wow. Made them sour, my superpowers. But you love it, you ask me how. That's for me to know you to find out, girl. Whoa. That's for me to know you to find out, girl. Yeah, yeah. Whoa. Fire when we touch, but you love the ice. Put it on your neck, babe, it's gonna look nice.
Nice.
Baby, I can fly, take you on a flight. Come look at my life, just see through my eyes. Yeah, we could do whatever, cause I'll never die. Gonna live forever, I don't need to try. We ain't gon' get caught, fuck our alibi. Super villains looking for my kryptonite. Made them sour, my superpowers. But you love it, you ask me how. That's for me to know you to find.
Money, pussy, power, that my superpower. I'ma fuck around and fuck for hours. Ass so fat, like you strip and go to hammer. Pussy sweet as ever and your attitude is sour. I'm a dog, fuck around and put my paw in it. Raw denim, but a nigga ain't go raw with it. Gangsta nigga lucky left it with a hefty ride. And if you get me started, we be fucking all night. Fuck around and dog fight.
Made them sour, my superpowers. But you love it, you ask me how. That's for me to know you to find out, girl. That's for me to know you to find out, girl.
Shit.
So that's for me to know you to find out.
Ça va, Rouskov ?
Bien, capitaine.
Capitaine, capitaine !
Que se passe-t-il ?
Y a rien, capitaine. On attend, mais pour l'instant, y a rien.
Le fait qu'il ne se passe rien maintenant prouve qu'il va bientôt se passer quelque chose, capitaine.
Votre logique me surprendra toujours un peu, monsieur Spock.
Capitaine, capitaine!
Oui, que se passe-t-il?
Regardez là, sur l'écran de contrôle. Regardez bien. Y a rien. Y a rien du tout. Regardez. Là. J'essaye de mettre un peu de suspense, capitaine.
Eh oui, parce que la saison NBA, c'est long, avec parfois la pression en novembre, en février et juste avant les playoffs, qu'on n'en voit pas le bout hein, de cette saison, 82 matchs quand même. Et c'est un peu comme dans Star Trek. Mais comme dans toute bonne édition spatiale, ce sont aussi les temps faibles, messieurs, qui permettent les rebondissements, les exploits, hein, un peu comme dans la saga Alien. Hein. Je suis retombé dessus hier à la télé, il rediffusait Alien, la fameuse scène où le mec il est en train de bouffer et derrière il y a une bestiole qui sort de son bide. Enfin bref, tout ça pour dire...
T'as des soirées de ouf quand même.
Ouais, c'était bien, j'étais tranquille chez moi, c'était bien. Alors aujourd'hui, on explore quelques questions sur cette saison régulière, parmi lesquelles les équipes qui vont nous surprendre, hein, positivement, négativement, les échanges qui vont venir chambouler le mercato d'ici la fin de saison et faire exploser un ou deux effectifs. Hein. Coucou Milwaukee. On va aussi parler des impondérables, souvent c'est les blessures hein, qui viennent rabattre les cartes du jeu en pleine partie. Et puis d'un point de vue individuel, on va se risquer à vous énoncer nos favoris dans quelques rubriques statistiques. Et si on a le temps, on vous présenterait nos candidats aux récompenses, même si on est tous d'accord. Hein. Il n'existe pas de victoire ou de trophée individuel qui vaille une bonne bague de champions glanée collectivement. Allez, c'est parti. Alors, les équipes qui vont nous surprendre, messieurs. Qu'est-ce que je vous propose de faire par conférence? Est-ce que vous avez réfléchi une équipe? Pas forcément par conférence, mais...
Les Cavs, hein, c'est...
Positivement, toi?
Ah bah ouais, positivement, ça commence bien, ouais. Après, le problème avec eux, c'est qu'il faut qu'ils soient tous en forme. Mais l'année dernière, quand ils étaient tous en forme, c'était incroyable ce qu'ils ont fait. Là, ça commence, ils sont sur 8-0.
Ouais, ils sont invaincus pour l'instant, c'est la seule équipe avec le Thunder, je crois.
Non,
ouais.
Thunder aussi, 7-0, là.
Non, ils n'ont pas perdu.
Ça joue bien en plus, je trouve que c'est agréable à regarder.
Après les Cavs, c'est une demi-surprise. Vu le calendrier qu'ils avaient sur ce début de saison, c'est une demi-surprise parce qu'ils n'ont pas encore joué de grosses pointures. On s'est dit, il y a Orlando qui arrive, puis Banquero, il s'est pété.
Ça aurait pu être une bonne surprise, tu vois, aussi en équipe.
Mais ça montre aussi, j'en parlais, je crois que c'était avec Kevin, j'avais un échange avec lui, qui, en fait, Banquero, quand il est blessé, ça redevient une citrouille, en fait, Orlando.
Hein. Ouais, c'est compliqué. Hein.
Ah, c'est la plaque tournante, de toute façon, sur les attaques, il touche le ballon à chaque fois. Hein.
Très très fort, très très bon début de saison. Vous avez un autre coup de cœur, les gars?
À l'Ouest, moi, je suis très surpris par le début de saison des Warriors.
Ah
alors là, je m'y attendais pas du tout. Ils avaient perdu, ils ont quand même perdu des éléments hyper importants dans leur, même dans leur 5. Ouais. Et ils arrivent et ça joue très très bien. J'ai vu qu'un seul match d'eux, mais alors ça joue super bien. Tous les systèmes, ils arrivent au bout. C'est une machine qui est déjà très très bien huilée. Hein.
Buddy à 50% au shoot à 3 points.
Il défend pas, hein, Buddy, mais il fait oublier que les Thompson, en tout cas, shoot sans problème pour l'instant.
Là, pour l'instant, ouais, c'est clair. Ouais, c'est...
Ah, puis il ressort de terre, lui. Hein. C'est incroyable. Ça fait 2 ans qu'il était au fond de.
Perdu, ouais.
En tout cas, c'est un joker offensif qui fait du bien à cette équipe. Baptiste, toi, tu vois, t'as une équipe qui t'a surpris positivement, ou Mathieu, tiens?
Moi, je pense que cette année, je pense que ça va être l'année de Phoenix. Je sais pas, ils ont été chercher un meneur et je pense que c'est ce qui manquait un peu dans la construction de l'équipe. Ils ont un big three qui aujourd'hui sait garder la balle. Et je pense que le meneur qu'ils sont allés chercher, ça va.
Tyus Jones, ouais. C'est là qu'on voit que Baptiste est quelqu'un de qualité. Je parlais de Matrice,
merci.
Parce que moi, j'avais mis Phoenix aussi. C'est vrai que la venue de Tyus Jones, Bill et Booker peuvent retrouver leur poste naturel. Hein. Ils ne seront plus obligés de porter la balle. Donc, ils sont affranchis de la création. Ils deviennent plus dangereux, forcément. Et hormis, moi, je suis d'accord avec toi. Après, le seul truc qui me fait peur à Phoenix, c'est la légèreté à l'intérieur. C'est-à-dire que si Nurkic...
Ah ouais, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que justement, ils ont appris à jouer avec Nurkic. Si tu regardes leur premier match qui a été diffusé, les 5 premiers ballons, ils vont à l'intérieur.
Oui, mais si Nurkic se blesse, c'est ça que je veux dire. Ah. Il n'y a pas de rotation.
Il y a
derrière
Bol Bol.
Fiable. La balle bonne, c'est pas à l'intérieur. Ouais. C'est comme Ben Maniam, c'est pas à l'intérieur.
Hein ouais. Ah bon
ouais, non, pas
tu peux faire 2m24 et pas jouer à l'intérieur.
Bah, bah, apparemment, il le fait.
Ouais. What Alors, est-ce que c'est suffisant pour faire de Phoenix un contender déguisé, crédible? On verra.
Ça peut être une surprise. Fois. Ça ouais. va bien. Ça peut être une surprise. Dans ta rubrique ouais. surprise, ça peut ouais. être bien.
Premier tour de playoff.
Enfin, t'as suivi un peu
J'ai peu le temps de tout suivre. Voilà. J'ai vu quelques résumés par-ci par-là, quelques articles. Non, moi, j'ai envie de dire. Sans dire qu'ils iront au bout, mais je suis content de savoir que pour l'équipe de Wemby, justement, ça démarre bien cette saison. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, ça démarre mieux que l'année dernière, en fait, c'est ça. Ouais, ouais.
Ah, ça pouvait pas être pire.
Pas super, mais c'est cool de dire, ah voilà, au moins il démarre avec quelque chose d'un peu plus intéressant.
Au moins il a des passes voilà. qui lui arrivent dans les bras.
Voilà. Après, ouais, c'est vrai que Oui. Et puis après, que les Suns, ça va faire mal. J'ai l'impression aussi. J'ai même cette impression-là aussi.
Et il y a quand même une grande surprise, c'est que Détroit a déjà pris 3 matchs.
Alors ça.
Plus que 11 et on est au bilan de l'année dernière.
C'est vrai que c'est
go Pistons, go.
Non, mais les Pistons, je les ai vus jouer, sans déconner.
Ça joue bien.
Ça joue pas mal. Hein.
Qu'est-ce que ça perd comme balle aussi. Wow, on dirait nous.
Tiens. Les équipes qui vont nous décevoir. Ah bon, je pense qu'on va tous se mettre d'accord. Bon, on a... voilà. Ok, on commence à l'Est.
Les Bucks.
Ah, les Bucks, moi c'est pareil.
Je crois que c'est 14e Philadelphie, 15e les Bucks.
Ah, mais attends, Philadelphie, attends qu'Embiid revienne, on en reparlera
ouais,
après.
Finis,
les Bucks, ils sont au complet. Hein.
Dans 6 matchs. C'est ça.
Moi, ce qui me fait peur avec les Bucks, c'est que clairement, la maillot, elle prend pas. Ouais. L'effectif, il est trop âgé. On a Lillard, Lopez et Middleton, c'est au-dessus de 33 ans. Alors, je dis pas que c'est bien, hein, j'en ai 46. Donc, mais en tout cas, pour ce type de basket, c'est mal équilibré parce que Lillard, il défend pas. Gary Trent, il défend pas non plus. Donc, quand dans ton 5, t'as déjà deux mecs qui défendent pas, c'est un peu compliqué. Et ça peut pas compenser, ça peut pas être compensé parce que le banc de Milwaukee est particulièrement faiblard et il a pas été renouvelé.
Ils peuvent pas. Bah, t'as vu les contrats qu'ils ont.
C'est bien le problème.
Les ogres, là.
Alors moi, je suis pas certain, je sais pas vous, mais on en parlera après, mais je suis pas certain que Giannis reste au Bucks. Hein.
Ah, c'est ce qui est annoncé un peu partout, quand même.
Ouais. Il y a beaucoup de gens sceptiques ici dans cette salle. En tout cas, il a été patient.
Il va se barrer. Il va partir, c'est sûr. Ouais.
Eh ben, on attend Bucks, du côté de South Beach sans problème.
Bien, tu sais là, mais tu sais où il serait vraiment comme un poisson dans l'eau? C'est à Golden State.
Non,
chez les Warriors, il serait comme un poisson dans l'eau. Il y a personne à l'intérieur.
Non, mais
le pire, si ça arrive, vas-y. J'avais pas... raison, je vous l'avais dit.
C'est... ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est toutes les dire.
Je peux toutes les dire.
C'est pas le jeu des Warriors.
Bon, on en parlera après parce que les trades, c'est après. Mais parmi les autres équipes qui déçoivent, les gars. Philadelphie.
Oh.
Ouais.
Oh. Est-ce vraiment une surprise?
Mais attends, on les a pas vus jouer ensemble. Je tu vois, c'est comme Phoenix quand ils n'étaient pas les trois ensemble, on jugeait, ils n'étaient pas tous les trois ensemble.
Moi, je n'ai pas mis parce que, partant de ce principe-là, je pense qu'on pourra juger Philadelphie quand ils jouent ensemble. Peut-être que ça n'arrivera pas d'ailleurs.
Non, mais ils vont faire combien de matchs ensemble? Ils vont faire quoi? La moitié de la saison?
On ne sait pas.
Mais si, tu sais, déjà Embiid a annoncé qu'il ne jouait pas les back-to-back. Donc déjà, ça t'enlève 25 matchs dans la saison. Après, là, il en est déjà 7 de ratés, plus les 3 qu'il a pris en pénalité, ça fait 10. Ah, t'es déjà arrivé à 35 matchs qu'il jouera pas.
Ouais, c'est vrai que
c'est moi, je veux bien, mais les automatismes, tu les fais pendant la saison régulière. Alors oui, il sera dominant en play-off, je veux bien tout ce que tu veux.
Mais alors,
je vous invite à boire une pinte si les Sixers vont en finale de conf. Je mets pas la barre haute. Hein.
Bah non, mais
les Sixers.
Si t'as pas envie de nous payer à boire aussi.
Ah, j'ai pas mis un gros objectif quand même.
Moi, j'ai mis aussi dans les déceptions Denver. Parce que Jokic.
T'es déjà parti?
D'accord, non, mais je suis un fan.
T'as pas parlé de Miami à l'Est?
Non. Parce que je t'expliquerai. Ils sont dans la rubrique trade.
Ouais, je trouve pas aussi dur que Denver. C'est vrai que c'est un début poussif.
Non, c'est parce que Jokic, c'est une franchise NBA lui tout seul, mais il est de plus en plus mal entouré. Bruce Brown l'année dernière, KCP qui est parti cette année, les blessures de Murray qui rassurent pas, là Gordon s'est fait la main, fracture de la main, donc les départs sont préjudiciables, ils s'accumulent avec le fait qu'ils étaient entre guillemets compensés par Westbrook. Et Westbrook pour moi c'est un flingue chargé dans ta poche. Certains soirs c'est utile, mais c'est de plus en plus rare. Et d'autres fois, c'est la garantie d'un accident. Et ben voilà. Quoi.
C'est vrai qu'il peut faire des non-matchs, mais quand il est là, il a quand même un sacré impact.
Bah, il met de l'énergie, on va dire. Il peut pas lui. Ah ouais. Il est sous coque, de toute façon.
T'es dur.
Non, je pense que oui.
Non, je pense que oui.
C'est un gros préjugé.
Après, c'est pas qu'il dit des phrases bizarres.
Il a la tête d'un cocaïnomane, Westbrook. D'ailleurs, il est trop énervé pour être un mec normal. Il fume pas que de la beuh, on dit.
C'est pas comme Katie.
Arrêtez vos allusions, monsieur.
Après, bon, dans les déceptions, moi, je pensais qu'il y avait Sacramento, je pensais que ça jouerait beaucoup.
Ah oui, si, ça.
Parce qu'ils ont quand même ramené DeRozan, et c'était une équipe qui faisait plaisir. Alors, pas l'année dernière, l'année d'avant. Ouais. C'était une équipe qui faisait vraiment plaisir à regarder. On prenait du plaisir à regarder Sacramento. Ouais. Et là, je trouve que ça joue pas super, quand même.
C'est vrai que c'est pas fou.
C'est lent. Bon, après, DeRozan fait du DeRozan. Hein, il va t'amener 25 points par match. C'est un super
joueur. Mais c'est
joueur.
Pareil. Est-ce que l'équipe est bien équilibrée? Parce que tu mets tout sur un 5. Après, quand les mecs sortent du terrain, est-ce que tu arrives à compenser?
De toute façon, Sacramento, dès qu'il y a une équipe avec des grands, ils ont quand même du mal à défendre après. Hein. Parce que Sabonis, il est pas très grand. Il doit faire 2-0-6 ou 2-0-7.
C'est pas un grand défenseur, Sabonis. Il y a une grosse présence au rebond offensif, à la passe, tout ça. Il pose des écrans. Mais en défense, c'est pas connu pour être un pitbull. C'est vrai que là, c'est peut-être une des faiblesses. On passe à la rubrique. Quels échanges vont venir chambouler le mercato d'ici la fin de saison et faire exploser un ou deux effectifs? On va essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on a un petit peu en retard sur le timing.
Bon, on a déjà parlé des bugs, donc on va les passer.
Ouais. Enfin, moi, je vous dis tout de suite. Moi, je vois bien un échange. Je vois bien Miami jouer all-in et dire Butler-Rozier contre Giannis. Après, le problème, c'est que Milwaukee, s'ils échangent Giannis, à mon avis, ils vont vouloir des tours de draft. Parce qu'il faut qu'ils reconstruisent. C'est tellement âgé. Mmh. Donc, je ne suis pas sûr de ça. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas trailé. Je prends mon téléphone et je leur dis, bah, vas-y, on vous laisse deux gars et on fait même un trade à trois s'il faut. Mais pour faire venir Giannis, parce que moi, je pense que toi, tu vois, vous voyez bien peut-être à Golden State, mais moi, je le vois encore mieux au Heat.
Moi, je ne le vois pas à Golden State. Hein,
non, mais... De toute façon, au niveau de son salaire, ça ne sera pas possible qu'il aille à Golden State.
Justement, ils ont fait de la place en enlevant Klay Thompson. Donc,
Mais d'ailleurs, Milwaukee, si je les mets dans le pack, parce qu'en fait, si vous regardez, bon, alors, il y a le salaire de Giannis, mais qui est mérité, entre guillemets. Mais Lillard et Middleton, ça pèse 92 millions par an à eux deux. Donc, ça veut dire que si tu gères les deux contrats de ces deux mecs-là aussi, bah, tu peux reconstruire, accumuler les tours de draft. Ils devraient demander conseil à OKC, peut-être.
Middleton, ça fait deux ans qu'ils essayent de le virer, mais son contrat est trop gros.
Il est toujours blessé.
Et il est blessé. Actuellement, là, il est
blessé. Ouais. Celui qui sera très demandé sur les trades, c'est Kessler, là, de Utah.
Ah, tu crois?
Parce qu'il joue dans une équipe en bois. Ah, il est bon, lui.
Mais Utah, à chaque fois, il demande la terre entière pour avoir...
Ouais, mais lui, il est vraiment bon. Et tu parlais de Phoenix, qui avait besoin de se renforcer à l'intérieur. Alors eux, c'est pareil, ils n'ont plus de place au niveau du salary cap.
Mais ils vont donner quoi, du coup, Phoenix, par exemple, s'ils veulent Kessler? Est-ce qu'ils vont demander...
Ils vont donner des tours de draft, hein, de toute façon. Ouais.
Bon, alors, du coup, on termine notre rubrique, parce qu'on est en retard, du coup. Est-ce que vous voyez un truc qui va se passer, qui va relativiser toute la saison? On n'aura pas le temps de faire les récompenses individuelles, mais on s'en fout un petit peu, de toute façon.
C'est un peu tôt, ouais.
Ouais, c'est un peu tôt pour les voir. Mais est-ce que vous voyez un truc qui... Est-ce que vous avez une crainte, par exemple? Bon, par exemple, Kawhi Leonard, là, il s'est blessé. On sait que les Clippers, leur saison, est due à un truc
qui... Ce que j'ai peur, c'est que Boston d'un côté et OKC de l'autre écrasent la ligue, en fait. Parce que, enfin, OKC, ils sont vraiment largement au-dessus des équipes à l'ouest qui jouent à chaque fois. Je crois qu'ils n'ont pas gagné un match de moins de 12 points.
Ouais.
C'est quand même énorme. Au bout de 7, c'est quand même énorme.
Et ils défendent parce qu'ils bloquent les équipes souvent à moins de 100 points. Et c'est...
Non, c'est vraiment. Et y a un banc qui est vraiment pas mal à OKC et Boston.
Boston. Ça sent vraiment. Excusez-moi, si on s'arrêtait là, je me demande les pronostics, mais je pense qu'on est à 80% à voir une finale à la limite Boston, sans blessure, sans paramètres, etc. Finale Boston-OKC, serait de la gueule d'ailleurs.
Hein. S'il n'y a pas de blessure, si les effectifs restent pareils, je pense qu'on ne se tromperait pas beaucoup.
Moi, je leur dis en tout cas, dans les impondérables, une blessure du type Jokic qui se blesse. C'est fini pour Denver, c'est le premier choix de la draft l'année prochaine. C'est tellement...
T'as vu ce truc de fou qui peut arriver avec les Clippers? Les Clippers, ils peuvent finir dernier, là, vu l'effectif qu'ils ont à l'Ouest, et ainsi de suite. Être premier à la draft, et en 2025, c'est OKC qui récupère le tour de draft des Clippers.
Wow.
Et puis il y a un petit joueur là, universitaire qui est pas mal, là, qui arrive.
Leur flag. En tout cas, voilà, bon, on a un petit peu sondé, il faudrait un peu plus de temps, mais de toute façon, la saison va être longue et on aura l'occasion de se pencher sur les différentes équipes qu'on a citées. On avait sondé aussi un petit peu quelle est la meilleure équipe, quelle va être la meilleure équipe à l'Est et à l'Ouest. Oh. Bon, je crois qu'aujourd'hui, les échanges qu'on va avoir là...
C'est ça, c'est le classement actuel, en fait. Là.
J'ai l'impression, en tout cas, qu'il va y avoir OKC, effectivement, et Boston, peut-être au-dessus du lot. Après, l'Ouest, c'est très homogène. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends à part Utah et Portland, toutes les autres équipes, elles peuvent postuler au play-in, à mon avis. Mmh. Alors qu'à l'Est, c'est beaucoup plus tranché. On risque d'avoir à peu près les mêmes que les autres années. Je vois pas trop
d'équipes qui va les Hornets, les Wizards en bas. Avec, voilà, c'est ça.
Difficile de voir. Ok. On a le temps de faire une petite pause musicale très rapidement et après on enchaîne avec nos deux dernières rubriques. Ça vous va ?
Ouais.
C'est parti.
So stupid. I feel just like a local guy when I'm with the boys. We do what we want. Yes, we do what we want. I feel just like a local guy when I'm with the boys. We do what we want. Yes, we do what we want. We do what we want. Yeah, we do what we want. Be my Romeo. Tell me all about your love. Tell me all about your pain. Bated breath and rubber gloves. So fucking
assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière.
Oh bah, on dirait une DeLorean, non ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ?
Toutes les questions recevront une réponse. Film,
d'accord.
Et on commence.
Oh, Doc, vous vous êtes déguisé en cosmonaute ?
C'est pas le moment, c'est pas le moment, on n'a pas le temps, allez.
Wyatt putting the move on Christie. Rebound O'Neal, coming up short, Ori,
dans sa machine à remonter le temps, Mehdi nous embarque à la découverte d'un joueur qui a traversé les années 90 et la première décennie des années 2000 sans faire de bruit, presque en silence, sans être jamais All-Star, comme un bon tueur à gages, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, on teste le présenter.
C'est ça. Alors aujourd'hui, je vais pas vous parler d'un Hall of Famer, je vais pas vous parler d'un gars qui est passé sur les All-Star Games. C'est quelqu'un qui n'a jamais été un franchise player, qui a toujours joué dans l'ombre de ses stars dans cette équipe. Mais je vais vous présenter quelqu'un qui a gagné le plus de titres sans jouer à Boston et sans jouer à Bill Russell. C'est la personne qui a le plus de bagues, c'est le joueur. Ce joueur, c'est Robert Horry, Big Shot Rob. Effectivement, comme tu l'as dit, c'était un tueur à gages. C'était la personne, s'il y avait un 3 points à mettre dans les dernières secondes, tu lui donnais la balle.
Tu savais
qu'il allait clôturer les games. C'était un truc de dingue. Alors, dans son histoire, Robert, il est drafté en 11e position par les Houston Rockets en 92. Il est quand même sélectionné derrière Shaq, The Morning à l'époque dans cette draft. Cette draft, elle est incroyable.
Draft, 92. Ouais, il n'y a pas Stacey Ogman aussi?
Si, ouais. dans cette draft, c'est une draft où il y avait plein de bons joueurs. Il sort de l'université de l'Alabama. Alors c'est un poste 4, mais c'est un poste 4 à l'époque qui est un peu moderne, parce que c'est un poste 4 qui va commencer à jouer loin de l'arceau. Il va pas se cacher, il va vraiment s'écarter du jeu, parce que dans son équipe, il y avait un pivot qui était pas trop mal, c'est Hakeem the Dream. Donc, il voulait lui laisser absolument...
Il a réussi à nous reparler d'Hakeem.
Bah, toujours. Meilleur pivot du monde et de tous les temps. Donc, il jouait loin de l'arceau. Et dans toute sa carrière, il va faire que 4 équipes. Donc, dans sa carrière, il commence à Houston, où il fait de 92 à 96, où il gagne 2 titres. Donc, avec Hakeem,
les deux titres entre les... La retraite de Jordan, ouais.
Exactement. Donc, en 94 et en 95 avec Houston. En 96, il part aux Suns. Un an, et il fait même pas toute la saison, il s'y plaira pas, et il sera redrafté directement aux Lakers, où là il va y rester de fin 96 à 2003, donc il va jouer dans le free pit avec Shaq et Kobe.
Ouais.
Et de 2003 à 2008, il a quand même la bonne idée de finir sa carrière chez les Spurs, où il va reprendre deux titres avec Tipeee. Donc, pourquoi j'ai souhaité parler de ce joueur qui est très méconnu par le grand public du basket.
Tu l'as dit, hein, jamais All-Star.
Jamais.
Voilà. Les stats, pas exceptionnelles. Hein,
rien.
En carrière, il est à quoi, 10 points de moyenne peut-être?
Même pas. Alors, il faut savoir que la saison régulière, il joue pour faire plaisir à ses équipes. Ouais. Mais alors, quand les playoffs et le goût du sang arrivent, c'est un joueur, c'est vraiment ce qu'on appelle un tueur.
Ouais.
Un tueur.
Clutch, vraiment dans tous les sens du terme, quoi.
Ah bah moi, c'est l'un des joueurs les plus clutch que j'ai connu, mais c'était un super joueur.
Il pouvait mettre des contres, hein. C'était un très très bon contreur.
Ah mais c'était un très bon contreur, et c'était un énorme dunker hein, quand il arrive dans la ligue, en début de carrière. C'est un énorme dunker, ce qui ne fera plus au fil des années. Au fil des années, il va vraiment se mettre sur son poste, les tirs à mi-distance et les tirs longue distance.
Il me fait penser un peu, je te coupe, mais un des premiers intérieurs, enfin semi-intérieur, plutôt ailier fort, mais qui a commencé à s'écarter loin alors qu'il avait un physique pour jouer intérieur, c'était Sam Perkins.
Oui.
Sam Perkins qui a joué aux Lakers pendant quelques années, à Seattle aussi. Et Sam Perkins, il s'était écarté comme ça. Et effectivement, Horry, avec des grosses qualités athlétiques pourtant, c'est vraiment décalé progressivement derrière la ligne à 3 points.
Et moi, j'ai réécouté, pour vous présenter le joueur, des interviews qu'il fait. Et en fait, c'est quelqu'un qui lit très bien le jeu. C'est-à-dire que pourquoi il s'est quand même beaucoup entraîné à shooter à longue distance? C'est parce qu'il a joué avec un pivot hyper dominant à qui il fallait faire de la place à l'intérieur. Et sachant qu'ils allaient envoyer un deuxième joueur en défense, ils savaient qu'il allait se retrouver seul et qu'il aurait les shoots ouverts. Que s'il joue vraiment comme un poste 4 à peu près dans la raquette, il laissait pas la place à son pivot de jouer.
Puis comme il était grand, défendre à l'extérieur sur un grand, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais un grand qui s'est shooté à cette époque-là, c'est vrai qu'il n'y en a pas énorme non plus. Donc, effectivement.
Donc, comme je vous disais, c'est quand même la personne sans jouer avec Bill Russell qui a le plus de titres. Et ce joueur est méconnu, il y a nulle part où son maillot est retiré.
C'est vrai.
C'est quand même...
Combien de titres, tu peux nous rappeler,
7 titres. Il a 7 titres. Il a fait 7 finales NBA, il a 7 titres.
Ça, c'est fou, ça.
Ouais, le GOAT, il a fait 6 finales NBA, ouais. Il en a gagné 6, mais lui, il en a fait 7 et il en a gagné 7. Ouais. Alors, évidemment, il n'a pas le temps de jeu, c'était non. pas un franchise player. Je crie pas au scandale, hein, c'est normal. Mais
il était plaisant à jouer. Moi, je me souviens, en début de carrière, il me faisait un peu penser, alors, en plus grand, hein, mais à Pippen. Il me faisait un peu penser dans les... Parce qu'il savait dunker, parce
ouais,
qu'il savait, il avait...
L'aide. Mais... Et en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il est toujours le quatrième joueur à avoir disputé le plus de matchs en play-off, oh, cool. derrière LeBron James, Derek Fisher et Tim Duncan. Ouais, quand même. Et c'est lui le quatrième.
Il est en bonne compagnie.
Ouais. Ouais, il est ouais. en bonne compagnie. Ouais. Il est seulement le troisième joueur. Bah, en fait, c'était le premier joueur à avoir gagné des titres avec trois franchises différentes. Ouais, ouais. Aujourd'hui, il est accompagné par LeBron James et Danny Green, ouais. qui ont gagné aussi avec, oui, trois franchises différentes.
Et un Spurs.
Mais aussi. Ouais. mais il faisait partie de cette catégorie de joueurs. Dès qu'il arrivait dans une équipe, bah, ça match, il facilite l'adaptation. Et c'est un vrai joueur d'équipe. Alors... Bien sûr, tu parlais de ces chiffres tout à l'heure en carrière, je les ai. Ces chiffres en carrière sur saison régulière plus play-off, c'est 7 points, 4 rebonds, 2 passes par match.
Ouais, C'est
vraiment pas terrible. Et pourtant, comme je disais, il n'a pas de reconnaissance. Quoi. Pas de Hall of Fame, pas de All-Star Game.
Après, les gens des années 90 le connaissent.
Exactement. Ouais, ouais. Exactement.
En fait, les gens qui ont suivi le basket dans ces années-là, ils connaissent Robert Horry parce que c'est...
Alors, juste pour vous donner un peu sa marque de fabrique, en 93, au match 7 contre Seattle, il reste 37 secondes à la fin, il claque un 3 points et gagne 2-2. Voilà. Le match 1 en 95 contre les Spurs, il marque à 6 secondes de la fin. Le match 3 en 95 en finale NBA contre Orlando, il met un 3 points à 10 secondes de la fin et il clôture la série. En 2001, avec les Lakers, et c'est certainement le tir le plus connu de Robert Horry, il reste 30 secondes à jouer. Et en fait, donc Kobe prend le shoot, il ne le met pas.
Chaque
essaye sa claquette, il ne la met pas.
C'est ce que j'ai mis l'extrait là.
Ah, et en fait, la balle revient sur chaque... Et il la sort à l'extérieur, il est à 3 points tout seul, il ouais. prend, et il c'est dedans, bien sûr, parce que sinon, ça ne servait à rien d'en parler. Et il gagne le match. Et en fait, en tout, j'ai noté en play-off, il fait 9 tirs vainqueurs.
9, de, ouais, ouais.
Il en prend 9, ce qui est,
c'est mortel.
Ce qui est non égalé.
Ouais,
hein.
ouais.
Et le joueur le dira lui-même plus tard, il aime jouer quand cela devient important. En fait, c'est un mec qui passe les saisons régulières, mais pff, ouais, vas-y, on joue pour jouer, on va jouer avec les autres. Mais alors, dès que l'odeur du sang arrive...
Allez voir les vidéos des shoots assassins de Robert Horry, parce que c'est un régal.
C'est voilà. génial.
Ouais. Ok, voilà. Merci en tout cas. Merci pour cette leçon d'histoire.
Eh ben de rien. Et à la prochaine. Hein.
Et on termine avec le buzzer beater. C'est parti. Portland has a timeout. Lillard. A chance to send the Thunder home. Lillard, long range three, and it's good at the buzzer. Damian Lillard, are you kidding me? Bien, messieurs, c'est l'heure du buzzer beater. Il nous reste très très peu de temps pour le faire. On va essayer de le faire en une minute. Trade New York contre Minnesota, Karl Anthony Towns d'un côté et DiVincenzo de l'autre, avec Julius Randle. Qui est gagnant, qui est perdant, messieurs? Baptiste.
50-50.
Là, tu
Moi,
penses.
Je pense que Kat va apporter beaucoup à New York. Ils avaient vraiment besoin d'un intérieur. Et de l'autre côté, ça va dépendre de la saison de Randle. Voilà, c'est... S'il fait une saison jusqu'au bout, c'est gagnant. Mais pour moi, pour l'instant, c'est du 50-50.
Donc c'est gagnant-gagnant ou c'est perdant-perdant?
C'est gagnant-gagnant.
Ok, d'accord. Messieurs, votre avis? Très vite.
New York, ils avaient absolument besoin d'un intérieur. Donc ils ont bradé quand même deux excellents joueurs. Après, Kat, moi, je ne suis pas un grand fan. Ouais. Voilà, je ne sais pas. Il apporte pas d'énergie à une équipe. Genre, c'est peut-être un délit. C'est peut-être un délit de sale gueule, mais je ne suis pas fan du joueur. Alors que de l'autre côté, quand même, DiVincenzo, c'est quand même une pile.
Il avait fait une sacrée pile.
Et Randle, quand il a envie de jouer, c'est quand même un sacré joueur.
Ouais. On est bien d'accord. Randle, en plus, est créatif, je trouve.
c'est un mec qui peut passer des, qui peut faire des très très bonnes passes. Je trouve que Towns, il est un peu unidimensionnel.
Et il prend des rebonds.
Il prend des rebonds, mais il a tendance parfois à tendre dans son coin, à vouloir planter des trois points, et c'est, ça peut donner des vissages complets. Alors Randle aussi peut en faire. Hein.
Après, avec Kat, ce qui est bien, c'est qu'il aussi t'amène du spacing, par contre. Aussi. Parce que comme il est dangereux à l'extérieur, son pivot, il peut pas trop aider à l'intérieur, quoi. Donc il t'amène pas mal de spacing.
Et ben, les prochains matchs vont nous dire si ça se confirme, et la saison, on a la saison régulière pour voir si c'était gagnant-gagnant, perdant-perdant ou 50-50.
Ça va être messieurs, notre fil rouge.
Voilà, exactement. On reviendra dessus. C'est l'heure de clôturer l'émission, les gars. Je vous remercie pour tout. C'est ce que vous avez des pour tout, pour votre rapport, tout ça. Puis bienvenue à, encore à, merci à Baptiste et Mathieu de nous avoir accompagnés. Vous avez un coucou à faire très rapidement.
Alors très rapidement, deux choses. Bravo aux filles de la Croix, compris leur deuxième match ce week-end, c'était intense, plus 2 à la fin, c'était vraiment super. Et puis bonne chance Pauline pour le début de ta saison demain en Alabama.
Bon bah si elle nous écoute la nuit,
elle t'écoute.
Non, c'est l'après-midi. Cool, génial. Manu,
eh bien un petit coucou au loisir de la Croix, voilà, simple, efficace.
Ok. Baptiste,
déjà merci de m'avoir invité.
Bah, c'est un plaisir.
Super sympa. Ouais. Non, une dédicace à tout le club. Moi, j'ai pas de personne en particulier. Merci en tout cas de cette invitation.
Bon, parce qu'on va le dire maintenant. Je l'ai pas dit parce qu'on veut pas faire de pub, parce qu'on est trop nombreux dans ce club. C'est la Croix, c'est le président de la Croix, Baptiste, un président super impliqué qui a développé bien le club et tout. Donc Mathieu, tu as un petit coucou aussi. Mais tu seras de retour, hein, tu auras l'occasion d'en parler, on t'interviewera plus spécifiquement.
Bah, c'est moi, ça. Coucou à mon équipe.
Ouais.
Bah, à ceux où je joue avec.
Tous tes potes?
Ouais.
D'accord. Et à l'école aussi, ou on reste dans le basket?
On reste au basket.
Ouais, simple, efficace. Là-bas, t'as bien raison.
Je vous dis au revoir, et moi je fais une super dédicace à Romain, mon neveu préféré, qui se remet doucement d'un saut en parachute, sans parachute. Et donc, je te fais un gros bisou, mon grand. Remets-toi bien. Je suis sûr qu'il va rigoler derrière. Et un coucou à Thierry qui nous écoute et qui va devenir notre Père Noël attitré. J'en dis pas plus, sauf que des cadeaux sont prévus.
Voilà.
Allez, on vous dit tous à bientôt. Rendez-vous le 21 novembre pour la prochaine. On vous filera le programme de la prochaine émission sur Facebook. N'hésitez pas donc à aller voir la page.
Salut. Ciao. Les potos.
Bisous. Ciao.